France Culture, il est midi et demi. L'heure du journal avec vous, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. L'Union européenne se lance aujourd'hui dans la bataille de l'intelligence artificielle. La Commission doit dévoiler aujourd'hui des pistes pour réguler cette innovation technologique et prévenir de tout dérapage à la Big Brother.
L'Allemagne veut lutter contre la haine en ligne et protéger ses élus.
Mais dans un contexte de menaces extrémistes accrues, le gouvernement doit adopter aujourd'hui en Conseil des ministres de nouvelles mesures et en particulier le durcissement de son arsenal contre les menaces sur Internet.
En France, la CGT s'apprête-t-elle à claquer la porte de la conférence de financement sur les retraites ?
Difficile ce matin encore d'y voir très clair. Seule certitude, en l'absence de réponse du gouvernement à ces propositions, la centrale syndicale posera à ses instances dirigeantes dès la semaine prochaine la question de la pertinence, donc de maintenir ou non sa présence à cette conférence. Et puis toujours en France, la fin des enseignements en langue étrangère, ELCO annoncé hier par Emmanuel Macron pour lutter contre le séparatisme islamiste, est-elle une bonne nouvelle? Et surtout, faut-il parler d'annonce ou plutôt de continuité? Enfin, 12h55, Raphaël, ce sera la grande table des idées.
Et il sera question d'un film absolument sidérant, même quand on s'intéresse depuis longtemps à la question des prisons. Nous recevrons les réalisateurs d'un film, Alice Audio et Jean-Robert Vialet, un film qui s'appelle Des Hommes et qui sort demain sur la prison des Baumettes à Marseille.
Merci et à tout à l'heure. Des applications de traduction instantanée à la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle est une révolution en cours dont chacun peut dès aujourd'hui aisément mesurer combien elle envahit déjà son quotidien. Mais parce que cette innovation nourrit aussi tous les fantasmes, nouvel Eldorado pour les uns, malédiction pour les autres, l'Union européenne a décidé de mettre de l'ordre dans ce nouveau Far West à l'ère numérique. Et c'est ainsi que la Commission doit donc dévoiler ce mercredi une première série de propositions destinées à encadrer au mieux le déploiement de cette technologie actuellement dominée par les États-Unis et la Chine, mais dont le vieux continent entend bien devenir l'un des principaux terrains d'application. Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Alors, si Bruxelles reconnaît que les entreprises européennes ont, pour le dire simplement, raté la première vague de la révolution Internet, en revanche, l'Europe est plutôt en pointe sur la défense de certaines valeurs éthiques. Et en ce sens, les propositions qui doivent être présentées aujourd'hui sont donc censées mettre en place un cadre pour répondre aux défis posés par l'utilisation croissante de cette nouvelle technologie, encore souvent décriée, mais qui semble désormais incontournable et surtout qui apparaît aujourd'hui, Angélique, comme un secteur hautement stratégique.
Alors oui, et comme c'est un peu le Far West, hein, vous l'avez dit, il faut réguler, cela ne voudra pas dire interdire, car la Commission ne veut pas brider dans ce domaine l'innovation, bien entendu, pas de moratoire, donc par exemple sur la reconnaissance faciale, comme cela avait été évoqué fin 2019, car il y a du bon et du mauvais dans ce domaine. Pour passer un contrôle dans un aéroport ou allumer son téléphone portable, reconnaissez que c'est pratique, mais si demain, voilà un exemple, si demain on contrôlait tous vos déplacements dans la ville qui sera multi-connecté avec les antennes 5G, que vous avez été fiché une fois adolescent, on va dire, pour un délit mineur, alors on peut imaginer un jour une intervention de police uniquement parce que vous semblez fébrile devant une banque. Sur la foi de l'analyse de votre comportement faite par un ordinateur, la Commission va donc lancer une vaste consultation de tous les acteurs pour définir les secteurs à risque dans le domaine de l'intelligence artificielle, comme celui de l'usage de ces technologies par les pouvoirs publics ou encore dans le domaine de la santé. Vaste consultation donc, l'objectif est de légiférer très vite fin 2020.
Et puis la stratégie dévoilée ce midi vise aussi, Angélique, à accompagner les entreprises européennes pour qu'elles ne ratent pas la révolution des données non personnelles.
Oui, c'est un enjeu majeur. Et là, on parle de ces milliards d'informations qui seront effectivement collectées, comme je viens d'expliquer demain, dans l'espace public, mais aussi chez vous, dans les usines, dans les magasins, grâce aux objets connectés. Ces données dites non personnelles, car elles ne sont pas liées à vous, mais qui, lorsqu'elles seront exploitées, peuvent devenir une véritable mine d'or pour offrir de nouveaux services aux consommateurs. Mieux gérer l'usure de vos pneus de voiture, organiser les flux dans les villes et vous proposer une application pour vous garer. Alors, ça existe déjà, mais avec le déploiement de la 5G, couplé à l'évolution des logiciels d'intelligence artificielle, eh bien cela va bouleverser notre quotidien et c'est de l'or pour les industriels. Il faut soutenir la recherche, dit la Commission, promouvoir des investissements dans ce secteur, s'assurer que la collecte des données d'un domaine à l'autre se fait selon une sorte de norme européenne pour favoriser l'interopérabilité des données. En fait, ce que l'on comprend dans la stratégie présentée en ce moment même par la présidente de la Commission, c'est que l'on souhaite demain avoir un marché européen des données non personnel qui soit géré en Europe et pas en Chine ou aux États-Unis pour nous enrichir, certes, mais aussi pour y faire appliquer nos règles éthiques et pas celles des Américains ou des Chinois.
Merci Angélique Bouin en direct de Bruxelles. Face au risque terroriste d'extrême droite, l'Allemagne va durcir son arsenal contre les menaces sur Internet et tenter de mieux protéger son personnel politique. Le gouvernement d'Angela Merkel doit en effet adopter aujourd'hui en Conseil des ministres ces nouvelles mesures dans un contexte de menaces extrémistes accrues à l'image des attaques contre des mosquées que projetait un groupe démantelé vendredi dernier. Le gouvernement souhaite notamment renforcer la loi qui oblige les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter à supprimer les contenus délictueux. Les explications à Berlin de Nathalie Versieux.
Plus de 1200 délits à motivation politique contre des élus de tous bords ont été recensés l'an passé en Allemagne. On ne compte plus le nombre de maires de petites communes qui ont finalement jeté l'éponge et démissionné après avoir été menacés, la plupart par des messages dont la teneur évoque l'extrême droite. Mi-janvier, des inconnus ont tiré à balles réelles de nuit sur les locaux de la permanence du député Karamba Diaby, un élu d'origine sénégalaise. La ministre de la Justice, Christine Lambrecht, est convaincue que les médias sociaux abaissent les seuils d'inhibition et facilitent le passage à l'acte. D'où le texte présenté aujourd'hui par le gouvernement. Les réseaux sociaux ne pourront plus se contenter à l'avenir de supprimer les contenus délictueux, ils devront les signaler à l'Office fédéral de la police criminelle qui transmettra les données au parquet. Dans les cas les plus graves, les réseaux sociaux seront obligés de communiquer les mots de passe des utilisateurs et de transmettre des données cryptées à la police en cas de soupçon concret d'homicide, de terrorisme ou de maltraitance d'enfants. La justice pourra prononcer jusqu'à 3 ans de prison en cas de menace de mort ou de viol proférée sur les réseaux. Le texte laisse augurer de débats enflammés au Bundestag dans un pays toujours très attaché au respect des données privées.
Et quand on reparle des réseaux sociaux, toujours et encore, en l'occurrence de Facebook, en procès aux États-Unis contre le fisc américain. Le contentieux porte sur un transfert de propriété intellectuelle réalisé en 2010 par le réseau social vers une de ses filiales. En Irlande, en clair, le fisc accuse la firme d'avoir déclaré une valeur inférieure à la réalité afin de réduire le montant de l'impôt à payer aux États-Unis sur ce revenu. On parle de 9 milliards de dollars d'arriérés. Et évidemment, le jugement de ce procès qui s'est ouvert hier est d'autant plus attendu qu'il pourrait marquer un précédent quant à l'attitude de la justice américaine face à la pratique courante parmi les multinationales consistant à transférer des bénéfices vers les pays où ils sont les moins taxés. Toujours aux États-Unis, le ministre de la Justice de Donald Trump sur la sellette, une pétition signée par plus de 1000 anciens fonctionnaires, exige la démission de l'attorney général William Barr après que celui-ci est intervenu la semaine dernière afin d'obtenir une révision à la baisse de la peine requise à l'encontre de Roger Stone, un ancien conseiller et ami de longue date de Donald Trump, reconnu coupable d'avoir menti au Congrès dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection américaine de 2016. Roger Stone devrait être fixé demain sur la peine qu'il encourt. Toujours est-il que selon les informations du Washington Post, le ministre de la Justice envisagerait donc à présent de démissionner. C'est un épisode de plus de la bataille rangée sino-américaine. Hier, l'administration Trump a annoncé qu'elle commencerait à traiter les 5 principaux organes de la presse officielle chinoise de la même manière que les ambassades étrangères. En clair, qu'elle les obligerait à déclarer leurs employés et leurs biens aux États-Unis auprès du département d'État. Alors comme attendu, la Chine a aussitôt jugé inacceptable les mesures américaines contre ses médias officiels et ce matin d'ailleurs en mesure de représailles, eh bien Pékin a décidé de retirer leurs accréditations à 3 journalistes du Wall Street Journal après la publication d'une tribune controversée. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Alors les représentants à Washington ont tenu à préciser que leur décision sur les médias chinois était envisagée depuis un moment, sous-entendu qu'elle était sans aucun lien avec l'évolution des négociations commerciales, ni même les derniers affrontements à propos de la crise politique à Hong Kong. Est-ce que l'administration Trump a donc choisi d'engager un nouveau bras de fer avec la Chine? Bras de fer, Nathanaël, que la Chine entend bien d'ailleurs rendre coup pour coup.
Oui, vous savez Thomas, c'est toujours surprenant de constater combien le régime chinois est susceptible sur ce qui peut se dire à son sujet. C'est d'ailleurs une stratégie de cette dictature de ne jamais rien laisser passer, que ce soit pour ses persécutions contre les Ouïghours, les Tibétains, que ce soit sur son attitude à Hong Kong, ou maintenant la crise du coronavirus, eh bien les Chinois contre-attaquent systématiquement. Et le président Xi Jinping ne s'en cache pas, puisqu'il déclarait le 3 février dernier que le gouvernement chinois doit renforcer son contrôle des médias en ligne et sévir contre ceux qui profitent de l'épidémie pour lancer des rumeurs. Le terme rumeur servant autant à qualifier de fausses informations que des informations qui déplaisent ou dérangent le Parti communiste chinois. Conséquence donc, ce bras de fer inédit entre les deux grandes puissances. Pékin n'a pas apprécié, vous l'avez dit, un article du Wall Street Journal et sanctionne 3 de ses journalistes en leur retirant leur carte de presse. Les autorités chinoises auraient aimé que le journal présente des excuses pour un titre choc sur la Chine, grand malade de l'Asie. Excuses qui ne sont jamais venues. Quelques heures auparavant, ce sont les États-Unis qui avaient haussé le ton en assimilant les médias d'État chinois à des missions diplomatiques, responsables selon eux de servir la propagande chinoise. Il faut dire que l'enjeu est énorme, car outre la crise sanitaire, il y a un risque de crise économique. Et celle-là effraie Pékin tout autant, sinon plus. Les Américains le savent également et comptent bien en tirer profit.
Merci Nathanaël Charbonnier. On reste en Chine où le bilan de l'épidémie de coronavirus a dépassé ce matin le seuil des 2000 décès. Plus de 74 000 personnes sont désormais infectées par le virus. En revanche, le nombre de cas de contamination supplémentaire a lui reculé hier pour la deuxième journée consécutive dans le pays. De la joie au désespoir en Turquie, la journée d'hier n'aura pas marqué le rétablissement miraculeux de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Même si l'homme d'affaires et mécène Osman Kavala, figure majeure de la société civile, a bien été acquitté et libéré au terme de son procès pour avoir soutenu des manifestations anti-Erdogan, c'était en 2013, sa joie n'aura été que de courte durée puisqu'un procureur d'Istanbul a de nouveau ordonné son arrestation dans le cadre d'une enquête séparée, liée cette fois-ci à une tentative de putsch visant le président turc en 2016. De quoi renforcer évidemment le sentiment d'acharnement à l'encontre du philanthrope, mais au-delà l'inquiétude quant à l'état de droit en Turquie. D'ailleurs, dès ce matin, a repris un autre procès, là aussi emblématique, celui de plusieurs défenseurs des droits humains, dont le président honoraire d'Amnesty International en Turquie, tous jugés pour terrorisme. Premier compte-rendu d'audience avec notre correspondante sur place au tribunal ce matin, Anne Andlauer.
En effet, 11 défenseurs des droits de l'homme, dont l'ancien président, mais aussi l'ancienne directrice d'Amnesty International Turquie, comparaissent depuis ce matin dans le cadre de ce procès ouvert en 2017. Alors les charges contre eux sont très lourdes. L'ancien président d'Amnesty, Taner Kılıç, a déjà passé 14 mois en détention préventive, tandis que 8 autres accusés ont passé pour eux 4 mois chacun derrière les barreaux. On leur reproche d'appartenir ou d'avoir aidé des organisations terroristes, mais c'est là des absurdités de ce procès, tel que les avocats de la défense l'ont encore décrit ce matin. On les accuse à la fois de soutenir le mouvement de l'imam Fethullah Gülen, considéré, on le sait, comme le cerveau du coup d'État manqué de juillet 2016, mais aussi des séparatistes kurdes du PKK et un groupuscule d'extrême gauche, autant d'organisations qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Ces défenseurs des droits risquent malgré tout entre 5 et 15 ans de prison. Alors tout au long du procès et encore ce matin à l'audience, les accusés de leurs avocats ont démonté un à un les arguments techniques de l'accusation, mais ils ont surtout souligné à quel point c'était leur travail, leurs activités, leurs recherches, leurs contacts en tant que défenseurs des droits humains qu'on jugeait dans ce tribunal, combien leur cas n'était pas unique, étant donné les dizaines de milliers de personnes poursuivies ou incarcérées en Turquie depuis les coups d'État manqués, mais aussi combien leur condamnation reviendrait à ordonner le silence aux autres défenseurs des droits et aux membres de la société civile en Turquie. Un verdict est attendu d'ici la fin de la journée.
Sommant une nouvelle fois le régime syrien de se retirer de certaines positions à Idlib, le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau menacé ce matin de déclencher de façon imminente cette fois-ci une offensive militaire sur place. Voilà plusieurs jours d'ailleurs qu'Ankara déploie en effet d'importants renforts militaires dans cette région, dernier bastion à la fois rebelle et djihadistes, des menaces qui interviennent après que les discussions entre la Turquie d'un côté et la Russie de l'autre, parrain du régime de Bachar el-Assad, ont échoué à faire baisser les tensions dans le nord-ouest de la Syrie, théâtre de violents affrontements ces dernières semaines entre les forces d'Ankara et celles de Damas. Le gouvernement libyen d'Union Nationale, basé à Tripoli, a annoncé la nuit dernière la suspension de sa participation à une nouvelle série de pourparlers militaires indirects entamée sous l'égide des Nations Unies. Un peu plus tôt, le port de la capitale libyenne avait été la cible d'une attaque à la roquette des forces du maréchal Haftar, et ce malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le mois dernier. Ce n'est pour l'instant qu'un projet, mais le Royaume-Uni s'apprêterait à mettre en place des mesures drastiques pour contrôler l'immigration après le Brexit. En clair, le gouvernement réfléchirait à un nouveau système à points donnant priorité aux travailleurs hautement qualifiés du monde entier. En clair, pour obtenir un visa de travail, il faudra dorénavant présenter des compétences spécifiques, parler anglais, avoir déjà une proposition d'emploi avec un salaire minimum annuel de 30 000 euros, ce qui, le cas échéant, devrait fermer la porte à environ 70% de la main-d'œuvre européenne actuelle. De quoi susciter d'ores et déjà donc des inquiétudes au sein de certains services publics comme celui par exemple de la santé. Les précisions à Londres de notre correspondant Antoine Gignot.
Si vous parlez anglais, 10 points. Si vous avez une offre d'emploi, 20 points. Un doctorat, 20 points supplémentaires. Et un salaire supérieur à 30 000 euros par an, c'est encore 20 points de plus. Ce nouveau système cible les jeunes actifs surdiplômés dont le Royaume-Uni a besoin pour développer la recherche, les services financiers, le secteur technologique. Mais il ferme la porte aux travailleurs européens peu qualifiés. Ils ne pourront plus occuper d'emploi dans l'hôtellerie ou le bâtiment. Les touristes et visiteurs, enfin, auront l'autorisation de séjourner 6 mois d'affilée dans le pays sans avoir la possibilité de travailler. Il s'agit de faire venir les Européens les plus brillants, explique Priti Patel, la ministre de l'Intérieur, qui précise il y aura des mesures spécifiques dans le domaine de la santé et de l'agriculture pour pouvoir recruter des infirmières et des travailleurs saisonniers, car le risque de pénurie de main-d'œuvre est réel. 70% des travailleurs européens arrivés depuis 15 ans au Royaume-Uni étaient en dessous des niveaux de salaire et de compétences que le gouvernement veut mettre en place.
L'islam politique n'a pas sa place en France. Déclaration hier d'Emmanuel Macron en visite à Mulhouse. Le chef de l'État a affirmé la détermination de la République à combattre le séparatisme islamiste tout en précisant que cette lutte n'était pas dirigée contre les musulmans. Alors parmi les premières mesures sur ce dossier politiquement sensible à l'approche des élections municipales, le président a défendu le en même temps de sa stratégie basée sur deux piliers. Le premier positif qui vise à la reconquête républicaine des quartiers qui en ont besoin en s'appuyant notamment sur des services publics plus présents et efficaces sur le réseau associatif. Et puis le second pilier plus coercitif, lui, sur le financement des lieux de culte depuis l'étranger mais aussi la scolarisation d'enfants dans des écoles hors contrat. Et toujours pour lutter contre le séparatisme islamiste, donc Emmanuel Macron a également annoncé la suppression des ELCO, ces dispositifs de cours facultatifs en langue étrangère dans les écoles à destination des enfants d'origine étrangère. Diane Berger, bonjour.
Bonjour.
Peut-être pour commencer, Diane, faut-il rappeler donc en quoi consistaient donc ces ELCO et pourquoi posaient-ils problème?
Les ELCO, ce sont donc des cours de langue facultatifs, accessibles du CE1 jusqu'à la fin du lycée, pour les enfants des familles qui le demandent en lien avec leur culture d'origine. 9 pays étaient concernés, dont par exemple l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Algérie et la Turquie. Mais depuis plusieurs années, ces ELCO étaient critiqués, soupçonnés d'être un lieu de prosélytisme religieux, car, particularité de taille, ces enseignements étaient assurés par des professeurs désignés par ces États étrangers. Selon Emmanuel Macron, les cours étaient donc gérés, je cite, sans que l'éducation nationale puisse exercer le moindre contrôle. Et c'est une pratique d'un autre temps, assure le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, au micro de France Info ce matin.
Depuis plus de 40 ans, il y avait ce système appelé ELCO, qui était conçu à une époque où l'immigration avait commencé depuis un certain nombre d'années, où l'idée était que les enfants devaient garder le lien avec le pays d'origine pour notamment y revenir. On n'est plus du tout dans cette logique-là aujourd'hui, on est dans une logique d'intégration. Et puis de toutes les façons, il n'est pas normal d'avoir un système où ce sont des États étrangers qui ont un contrôle sur un enseignement qui est fait à nos enfants français.
Alors, pour les 80 000 élèves environ qui suivent chaque année ces cours ELCO, le gouvernement promet un nouveau dispositif, les EIE. ELE pour enseignements internationaux en langue étrangère. Leur contenu est encore à préciser et pour y arriver, des négociations diplomatiques sont en cours avec les pays concernés, tous à l'exception de la Turquie.
Et toujours donc pour poursuivre sur cette question, Diane, vous avez joint par téléphone Françoise Popineau, co-secrétaire générale du SNUIPP, le syndicat national unitaire des instituteurs et professeurs des écoles. Et on va l'entendre, pour elle, la suppression donc de ces ELCO est non seulement une mauvaise annonce, mais surtout, elles sont aujourd'hui une mauvaise cible. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient sous contrôle.
Le président de la République annonce mettre un terme aux ELCO, ce qui avait déjà été initié sous le gouvernement de Madame Najat Vallaud-Belkacem, hein, qui elle-même avait transformé les ELCO parce que, en effet, elle s'était aussi rendue à l'idée qu'il fallait avoir plus de vigilance. Donc il y a déjà une transformation qui est entamée, il y a déjà des discussions qui sont menées avec les pays. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces enseignements ne sont pas totalement en roue libre, hein, c'est-à-dire que désormais,
les cours sont inspectés par l'éducation nationale. L'enseignant qui délivre ses cours participe au conseil des maîtres, participe au conseil d'école et est évidemment sous la responsabilité du directeur ou de la directrice. Donc il y avait déjà une vigilance de l'éducation nationale, mais effectivement il fallait la renforcer, c'est ce qui avait été évidemment mis en place par Najat Vallaud-Belkacem. Mais surtout, le sentiment qu'on peut avoir, c'est de se dire qu'une fois de plus, il y a une forme d'instrumentalisation de l'école, on montre que c'est finalement à l'école qu'il se passerait des choses. Vous savez, c'était un petit peu là-dessus que surfait le Front National en son temps, hein, qui disait les ELCO, c'est une façon d'apprendre que la langue arabe, il y a un vivier de terroristes qui est là parmi les enseignants. Donc voilà, on a l'impression qu'on surfe encore sur ces idées très noires. Évidemment, l'éducation nationale a un rôle fondamental à jouer, que de vérifier évidemment l'enseignement qui est délivré où que ce soit, hein, dans les écoles. Ça, c'est évident. Il est évident aussi que les principes de laïcité et les principes de neutralité doivent être respectés partout. C'est cette vigilance-là, d'ailleurs, qui avait été mise en place dans les discussions avec les gouvernements dès 2016 par Mme Vallaud-Belkacem. Voilà, il ne faut pas inventer des choses qui n'existent pas. Ces enseignements touchent beaucoup de pays, y compris des pays européens. Tout ça doit être évidemment bien observé par l'éducation nationale. C'est ce qui se fait et les cours sont inspectés par l'éducation nationale. Donc il ne faut pas laisser entendre qu'il y aurait un laisser-aller total sur ces enseignements-là. Mais il faut éviter d'instrumentaliser l'école sur un repli sur soi ou en désignant un pays ou un autre. Au contraire, ces enseignements sont fondamentaux pour les élèves. Ça permet de faire des ponts entre la culture de la maison et la culture de l'école. Et ça permet évidemment d'être un être beaucoup plus épanoui quand on a fait des ponts entre tout cela.
Voilà, Françette Popineau, donc co-secrétaire générale du SNUIPP. Merci à vous, Diane Berger. Début poussif et sous tension hier pour l'examen à l'Assemblée nationale des milliers d'amendements au projet de réforme des retraites. Les oppositions de droite comme de gauche ont multiplié les critiques et autres batailles de procédure face à une majorité consternée, continuant de plaider pour un vrai débat. Après des premiers échanges chahutés, les rappels au règlement, suspension ou encore demande de vote électronique ou de quorum se sont enchaînés, toujours émaillés d'invectives. Et puis parallèlement, s'est ouverte hier la conférence de financement sur les retraites. Les partenaires sociaux ont jusqu'à fin avril pour trouver des solutions susceptibles de ramener le système à l'équilibre d'ici à 2027. Et là aussi, les débuts de cette conférence s'avèrent pour le moins chahutés. Ce matin, chez nos confrères de Radio Classique, la numéro 2 de la CGT, Catherine Perret, affirmait avoir claqué la porte de cette conférence, parlant notamment de compromis impossible. Et puis finalement, quelques minutes plus tard, la centrale publie un communiqué pour dire qu'elle poserait la question à ses instances la semaine prochaine. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Alors que faut-il comprendre? La CGT a-t-elle décidé de quitter la table ou non?
Oui, elle quittera la conférence de financement. Ce n'est qu'une question de jour, le temps d'officialiser cette décision lors d'une réunion prévue mardi prochain. C'est ce que nous a confirmé Fabrice Angéhi, secrétaire confédéral de la CGT.
C'est comme un menu, il y aura l'entrée et après vous aurez le dessert. Mais il y a une cohérence du menu, donc ce qui a été dit sera largement confirmé. Il n'y a pas une forte volonté du gouvernement d'entendre. Il ne veut pas changer donc sa feuille de route et son objectif. Et donc, c'est qu'une question de délai, mais il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas validation par la direction de la CGT de la décision aujourd'hui, devant cette impasse, de quitter cette pseudo-conférence de financement pour organiser là une vraie conférence de financement en intersyndicale pour améliorer notre système actuel qui est l'un des meilleurs systèmes au monde.
Alors cette conférence parallèle sera organisée dans le courant du mois de mars. Elle sera la plus ouverte possible, promet la CGT, avec des initiatives à Paris et en région.
Alors si l'on considère, Anne-Laure, que la CGT connaissait a priori les règles de cette conférence de financement, pourquoi dès lors avoir décidé de participer aux premiers travaux?
Il aurait effectivement été plus lisible de bouder cette conférence dès le début, mais du côté de la CGT, on explique avoir voulu exposer ses propositions. En annonçant claquer la porte, l'organisation de Philippe Martinez a en tout cas peut-être voulu envoyer un signal à la veille de la 10e journée interprofessionnelle de mobilisation, alors que certains en interne contestent sa stratégie estimant peu efficaces ces journées de grève de 24 heures.
Merci Anne-Laure Jumet. Après des années de débats qui ont fait de sa fermeture un véritable serpent de mer de la vie politique française, le décret abrogeant l'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim a été publié ce matin au Journal officiel. Le réacteur numéro 1 sera définitivement arrêté samedi. La fermeture du réacteur numéro 2 est quant à elle fixée au 30 juin. On termine avec un mot de météo. Le temps connaîtra une légère amélioration sur la moitié nord du pays. Les précipitations devraient s'atténuer, même si le ciel restera toujours très encombré. Sur la moitié sud, en revanche, là, les éclaircies seront nettement plus généreuses. Quant aux températures, elles afficheront entre 7 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.